Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les fins de siècle sont, semble-t-il, particulières. Elles ont leur littérature propre, leur art pictural particulier, leurs faits divers à elles. Et, évidemment, leurs extravagants. Des êtres étonnants, décadents, généreux, escrocs, philanthropes, savants. Bref, les fins de siècle sont à étudier de près. Mais après coup, évidemment. Jean-Pierre Rioux, un été sur France Culture, avait décliné quelques-uns de ces frissons fin de siècle. Des personnages, comme l'on dit. Celui qui vient aimait les canulars. On ne saurait pas trop où le situer aujourd'hui, anticlérical, anti-maçon. Le monde que l'on imagine, les réunions improbables, font un peu penser au décor de certaines aventures vécues par l'une des héroïnes de Tardy, Adèle Blansec. Première diffusion sur France Culture le 16 août 1990.
Fin de siècle par Jean-Pierre Rioux.
Aujourd'hui, 24e, l'extravagant monsieur Taxil.
Nous avons rendez-vous avec une bien étrange affaire. En avril 1897, la rumeur a couru dans toute la presse. On allait enfin la voir, celle qui tient la France en haleine à chaque livraison de ses mémoires. Elle fera une grande conférence. Oui, Miss Diana parlera, elle montrera le palladium terrassé, elle produira ses actes de famille authentiques, elle brandira l'original du pacte qu'elle a conclu avec Lucifer et expliquera comment la queue de lion Adonaïte fit d'elle un instrument de la malice infernale et comment, pour conclure, le diable Asmodée l'a enlacée. Et puis alors la nouvelle fut confirmée, c'est Monsieur Léo Taxil qui exposera toute l'affaire et qui exhibera la Miss, donc, le 19 avril, à la Société de Géographie, boulevard Saint-Germain. Et au jour dit, pendant que la police disperse les badauds qui se sont attroupés, prend place dans la salle, note le reporter du matin, une assemblée d'élite parmi laquelle de nombreux prêtres venus de tous côtés, des carmes, des ecclésiastiques de marque qui croyaient assister à un triomphe de la religion. Alors tout avait commencé 2 ans plus tôt, en juin 1895, quand le journal La Croix avait annoncé avec des sanglots de sainte joie.
Nous apprenons de sources absolument sûres que Miss Diana Vaughan renonce définitivement au palladium et va mettre à combattre les triangles, aussi bien ceux de l'EMI que ceux du palladium indépendant, la même ardeur qu'elle déployait à les propager.
Alors les triangles, c'est évidemment des assemblées de francs-maçons un peu spéciales. Le palladium, c'est le rite palladique réformé nouveau qui a été fondé en 1870 à Charleston, en Caroline, par le général Pipe, qui s'est déclaré anti-pape et qui s'ordonne autour d'un symbole bien connu en occultisme, le palladium. En clair, il s'agit du culte de Satan, proliférant depuis l'Amérique et auquel sacrifieraient en secret des super-initiés de toute obédience dans les arrière-loges du monde tout-puissant et dévastateur de la franc-maçonnerie universelle. L'EMI, c'est ce grand maître du Grand Orient d'Italie, élu successeur de Pike en septembre 1893, et qui a commis l'erreur d'autoriser ses frères à adorer indifféremment le mal sous deux formes, sous le nom de Satan, l'ange déchu, ou de Lucifer, le fils de l'aurore. Un schisme a aussitôt sanctionné ce pas de clair théologique. Miss Vaughan, la jeune inspectrice générale de la secte américaine, s'est déclarée anti-papesse contre l'EMI. Et c'est elle qui vient ensuite à Paris, où elle est reçue dans une loge franc-maçonne. Et voilà le récit de sa réception.
Diana Vaughan arrive. Vu la dispense d'une des deux épreuves importantes, le cérémonial ordinaire de la réception est abrégé. Du reste, aucun des assistants n'ignore que la jeune fille sait à quoi s'en tenir sur la doctrine occulte de la divinité double qu'elle considère Adonai comme le principe du mal et Lucifer comme le vrai Dieu bon. Frères et sœurs se mettent à genoux devant l'autel du Palladium et la grande maîtresse prononce d'une voix retentissante l'oraison célèbre « Viens, Lucifer, viens, ô le calomnier des prêtres et des rois !» Diana écoute encore, puis regarde, non sans surprise à présent, tous les assistants qui, un poignard à la main, se lèvent avec fureur dans la direction du plafond en criant « Nekam Adonai, Nekam !» On lui remet la formule du serment. « À toi, Lucifer, je jure amour, respect, fidélité. » Elle la lit et relit, approchant le papier d'un flambeau. Elle ne veut donc agir qu'en parfaite connaissance de cause. Enfin, d'une voix qui ne tremble pas, d'une voix forte, elle prête le serment sans sauter une ligne de la formule. Tous les palladistes sont dans la jubilation.
Et voici désormais Miss Vaughan qui, entre Paris et New York, et même à Rome, fait des révélations, publie une revue, le Palladium régénéré, et au terme d'un rude combat, en avril 1895, c'est donc cette Diana-là que le journal La Croix proclame convertie. Elle a compris qu'elle avait trop de vertus pour n'être pas chrétienne, sans doute. Elle a compris que Lucifer n'était que Satan, au bout du compte. Elle rentre quelque temps au couvent, elle parachève sa conversion. Et c'est, dit la croix, un événement immense dans l'ordre de la grâce. Et puis elle exploite son fonds de commerce, même converti. Elle explique que le Palladium a investi toute la franc-maçonnerie, qu'il œuvre donc pour l'avènement du malin sur le monde entier. Qu'un livre à succès, paru en 1892, « Le diable au XIXe siècle » d'un certain docteur Bataille, eh bien, était parfaitement informé sur le spiritisme, sur les diableries, sur l'impiété des lucifériens. Elle détaille le chiffre des diables dans les légions infernales, 44 435 633 diablotins exactement. Elle révèle surtout que ces maçons-là, diaboliques, ont déjà empoisonné Cavour ou Thiers, qu'ils veulent empoisonner le pape lui-même, Léon XIII, et qu'ils détiennent des secrets nouveaux sur l'art d'empoisonner les gens.
Ils empruntent au fungus son humeur vireuse et narcotique, au datura stramonium ses principes asphyxiants, au péché et au laurier amande, ce poison dont une seule goutte sur la langue, dans l'œil ou dans l'oreille, renverse comme d'un coup de foudre et tue l'être humain le mieux constitué, le plus fort. Ils savent et enseignent aux exécuteurs des vengeances ordonnées par les chefs inconnus comment on empoisonne les plantes, comment tels animaux nourris de plantes empoisonnées prennent une chair malsaine et peuvent, lorsqu'ils servent à leur tour d'aliment aux victimes désignées, leur causer la mort sans que le poison laisse aucune trace.
Empoisonnement, diablerie variée, toutes ces révélations de Diana Vaughan sont aussitôt prises en compte, orchestrées, admirées, déclarées plus que significatives par nombre d'ecclésiastiques, par tous ceux qui entendent organiser la lutte contre la franc-maçonnerie en France. Alors tous ces gens vont savoir et vont boire un peu le calice jusqu'à la lie ce 19 avril à la Société de Géographie. Devant l'assistance stupéfaite, Léo Taxil commence bien sûr par remercier tous ces révérends pères qui ont beaucoup fait pour populariser l'affaire. Il félicite tous ces prélats, tous ces théologiens illustres qui ont complimenté le fameux docteur Bataille. Hélas, poursuit Taxil, tout n'était que joyeuse fumisterie. Toutes ces brochures, tous ces livres, c'est moi qui les ai écrits. Diana Vaughan, c'est un mythe, ou plutôt c'est tout simplement la sympathique représentante en France d'une marque américaine de machine à écrire, circonvenue par mes soins pour 150 francs par mois et qui s'est beaucoup amusée dans l'aventure. Moi, toujours moi, Taxil, qui se présente, un libre penseur qui, pour son édification personnelle, nullement par hostilité, est venu flâner dans votre camp de vous, les anti-maçons. Ce Taxil a tout un passé. Il a 43 ans, il est marseillais, de bonne famille, élevé chez les jésuites. Il a déjà monté ses premiers canulars, inévitablement l'invasion du vieux port par les requins, ou la découverte d'une cité lacustre au fond du lac Léman. Et puis il s'est un peu spécialisé dans les feuilles et les brochures anticléricales. Il a fondé en 1878 à Paris une bibliothèque anticléricale, où on détaille, vous l'imaginez, les amours de Pie IX, les pornographes sacrés, les maîtresses du pape. Il vend une grosse brochure à Balacalotte, à plus de 130 000 exemplaires. Il compose, sur l'air de la Marseillaise, une Marseillaise anticléricale.
Allons, fils de la République, le jour du vote est arrivé. Contre nous de la noire clique, l'oriflamme ignoble est levé, l'oriflamme ignoble est levé. Entendez-vous tous ces infâmes, croasser leur stupide chant, ils voudraient encore les brigands, salir nos enfants et nos femmes, aux urnes citoyens. Contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux.
Et cette Marseillaise qui sera copieusement chantée en France par tous les saucissonneurs du Vendredi Saint dit bien toute la force de ce sentiment-là. Et voilà que lui aussi, comme cette Vaughan qu'il avait inventée, Taxil s'est brusquement déclaré converti, a abjuré ses erreurs en 1885, un 24 avril, toujours le mois d'avril, bien sûr. Il s'est jeté éperdu à Rome au pied du pape Léon XIII, qui, ému, a béni Taxil. Et voilà, de rechef, Taxil à la pointe du combat contre les ennemis de l'Église. À l'heure où Léon XIII vient d'exposer très sérieusement, dans une encyclique, en avril 1884, que Satan menait le bal maçonnique. Alors qu'un tel personnage et ses calembres d'haine aient suscité un si prodigieux intérêt dans des milieux très divers en dit long, je crois, sur la fin de siècle, surtout sur l'Église catholique elle-même, cela va de soi, qui se croit menacée très sincèrement par le complot infernal judéo-maçonnique. Les francs-maçons, de leur côté, ne réagiront qu'assez peu. Ils sont à peu près 20 000 en 1890, 30 000 en 1900. Ils recrutent beaucoup dans les classes moyennes, parmi eux beaucoup de fonctionnaires, beaucoup d'instituteurs, beaucoup de professions libérales, car l'appartenance à la franc-maçonnerie peut favoriser les carrières. Ils surveillent étroitement la vie politique locale. Les francs-maçons sont au fond assez tranquilles. L'esprit républicain qui triomphe dans le pays est un peu le leur, et du coup, les mystifications de Léo Taxil les laissent assez tièdes. Taxil finira en petit rentier à Sceaux, très honorable, en 1907.
C'était l'extravagant Monsieur Taxil par Jean-Pierre Rioux. Texte lu par Nathalie Nerval et Alain Rimoux.
Collaboration artistique Mireille Vasseur, prise de son Maurice Biard, mixage Geneviève Nguyen, réalisation Pamela Dousseau. Thank you.
C'était Frisson fin de siècle, l'extravagant Monsieur Taxil, par Jean-Pierre Rioux. Première diffusion sur France Culture le 16 août 1990. Émission à réécouter en ligne ou à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.